Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, les villes repensent la place de la voiture. C'est un enjeu politique, de santé publique, c'est une question environnementale devenue centrale. Dans de nombreuses villes françaises, des voix s'élèvent pour réclamer la gratuité des transports en commun. C'est déjà le cas dans une trentaine de communes, souvent de taille moyenne. La grande ville pionnière en la matière depuis octobre 2018, c'est Dunkerque, dans le Nord, et les quelques 260 000 habitants de son aire urbaine. Un reportage signé Marie Casadebet.
Depuis que les bus sont gratuits, à Dunkerque et dans son agglomération, Sonia a changé ses habitudes. Elle prend les transports en commun pour rejoindre le centre-ville.
C'est pratique le bus, pas besoin de chercher une place de parking. On laisse la voiture devant la maison, c'est plus rapide et on en a plus souvent par rapport à auparavant.
Je vous suis.
Bonjour.
Donc là, on monte dans le bus et vous n'avez rien à faire?
Rien du tout.
Avant, c'était comment?
On avait un boîtier à l'avant du bus et on passait notre carte devant et on le badgeait. Après, il faut aussi aller dans les différents points de vente pour pouvoir recharger la carte. Là, il n'y a plus rien à faire. Un point en moins.
Un poids en moins et une dépense en moins. 240 euros par an, des économies non négligeables pour Sonia. Comme pour Samuel, le jeune homme est en apprentissage. Il n'a jamais eu d'autre choix que de prendre le bus, même sans en avoir les moyens.
Pour ceux qui le prenaient en fraude, il n'y a pas le stress des contrôleurs. Vu que moi, je peux le dire que je le faisais. Si j'avais pas les sous pour acheter un ticket ou des trucs comme ça. Vu qu'on est trois à la maison et moi je travaille pas encore, c'est compliqué. Là, avec mon père, on a bien économisé.
Un an et demi après, on peut parler de succès et de fierté pour le maire de Dunkerque. Patrice Vergrit, également président de la communauté urbaine, il a fait de son agglomération la première de cette taille en Europe à instaurer la gratuité des transports en commun.
J'ai les chiffres en temps réel, je les ai sur mon téléphone portable et je les suis. Et donc j'ai mon petit graphique. Donc là, vous voyez la fréquentation en semaine. La semaine passée, on était à plus 77% par rapport au niveau d'avance. Ça veut dire qu'on va probablement atteindre l'objectif initial qui est de doublement de la fréquentation. Probablement cette année.
L'exemple dunkerquois fait des émules. Le chercheur Maxime Huret, président de l'Observatoire des villes et du transport gratuit, est sans cesse sollicité par des collectivités qui cherchent à transposer le modèle. Cela n'est pas toujours possible.
Ça va dépendre des territoires et notamment de deux aspects. Un aspect technique, parce qu'on peut plus facilement passer à la gratuité lorsque les réseaux de transport ne sont pas saturés. Et puis des aspects financiers, puisqu'il faut budgétiser le financement de la gratuité des transports et l'investissement dans le réseau, puisque l'exemple dunkerquois, c'est la gratuité en même temps qu'un investissement dans le réseau de transport collectif. Parce que quand on passe à la gratuité, il y a une augmentation très importante de la fréquentation. Donc si on a des transports saturés, on ne peut pas absorber cette augmentation de la fréquentation.
Quel type d'investissement ont été faits à Dunkerque?
On a surtout mis des bus en site propre, c'est-à-dire des bus avec des voies réservées qui permettent d'améliorer cette fluidité. Parce que le transport doit être efficace aussi. La gratuité, si vous voulez, ça va agir comme un déclic. On va revenir vers le transport collectif ou découvrir même parfois le transport collectif. Et puis pour fidéliser les usagers, il faut que le réseau soit efficace. C'est quand même une politique globale.
En France, une trentaine d'agglomérations ont appliqué la gratuité de leur réseau de transport public, des agglos de plus petite taille que celle de Dunkerque. Il faut aller ailleurs, en Europe, pour observer des expériences à plus grande échelle.
On a l'exemple de Tallinn, qui est bien connu maintenant en Estonie. L'Estonie, qui souhaite aujourd'hui étendre la gratuité à l'ensemble des villes du pays. Luxembourg, donc c'est même un État, 600 000 habitants. C'est vrai que c'est particulier, c'est comme une grande agglomération en fait. On peut l'analyser plutôt comme une grande ville qui passe à la gratuité, mais d'un point de vue de l'État français, il se peut qu'il y ait déjà des débats après au régional concernant d'autres transports, notamment le transport ferré, et puis des débats plus largement à l'échelle nationale, mais il ne faut pas oublier aussi de l'échelle européenne qui se questionne beaucoup aujourd'hui autour de ce dispositif de gratuité, avec Luxembourg, Tallinn, une capitale, et d'autres villes en France et en Belgique qui y réfléchissent. Donc il y a effectivement des acteurs à mettre autour de la table, peut-être pour repenser le modèle de financement et entrevoir différentes sortes de gratuités. Il y a des villes pour qui peut-être des gratuités partielles sont mieux adaptées.
Retour à Dunkerque, si aucun opposant au maire ne remet en question la gratuité des bus, c'est le financement des futurs investissements qui fait débat. Jusque-là, Patrice Vergrit a mis un point d'honneur à ne pas augmenter la taxe transport versée par les entreprises de plus de 11 salariés. Il a fait pour cela des choix budgétaires, comme l'abandon d'un projet de salle de concert. Et pour l'avenir, il n'est pas inquiet du tout.
Demain, on fera évidemment ces investissements. Mais surtout, je me dirai qu'à chaque fois que j'investirai dans le transport collectif et que la fréquentation augmentera, les Dunkerquois s'enrichiront. Tous les nouveaux usagers, ils ont gagné en carburant. Eux ont eu des gains de pouvoir d'achat. Et bien derrière, ça joue sur mes commerces, sur le développement d'un certain nombre de services ici. Donc globalement, c'est quoi l'objectif d'une collectivité publique ? C'est pas que les habitants s'enrichissent. Grâce à la gratuité du transport public, aujourd'hui, on a des parkings en centre-ville qui sont quasiment vides. Ça nous permettra demain de faire des logements, des commerces. C'est de la recette foncière, c'est de la recette fiscale pour la collectivité. Et ça, ça va venir en moins de mes dépenses de demain.
Le nouveau défi du maire de Dunkerque, c'est maintenant de répondre aux attentes des communes un peu plus périphériques qui souhaiteraient, elles aussi, bénéficier de la même offre de transport. Et des sites industriels qui demandent des horaires décalés, adaptés au rythme de travail de leurs salariés.
En Autriche, c'est peut-être le début de la fin de l'ère de l'automobile à Vienne. Des élus locaux annoncent l'interdiction à venir de circuler pour les voitures dans l'ultra-centre de la capitale à l'approche des élections municipales. Les explications de Céline Béal.
Ni voiture, ni moto, ni scooter dans le premier arrondissement. Voilà l'annonce faite par la vice-maire de Vienne, la verte Birgit Ebein, qui est aussi conseillère municipale en charge des transports, et par le maire conservateur de cet arrondissement, Markus Figl. Le premier arrondissement, c'est l'ultra-centre de Vienne, classé à l'UNESCO, 3 km² autour de la cathédrale. D'étroites rues pavées, des calèches pleines de touristes, lorsque la situation sanitaire le permet, de nombreuses voies à sens unique et parfois des bouchons. L'interdiction qui devrait entrer en vigueur avant octobre et les élections municipales connaîtra cependant de nombreuses exceptions. Au final, il devrait y avoir 30% de voitures en moins dans les rues de l'arrondissement maximum. Cette nouvelle mesure cause beaucoup de remous depuis son annonce. C'est un nouvel exemple de la réflexion générale sur la place de l'automobile qui émerge à Vienne. Elle n'est pas tout à fait nouvelle, puisque les Verts ont imposé, par exemple, plusieurs zones semi-piétonnes depuis qu'ils ont fait leur entrée, il y a 10 ans, dans la coalition qui gouverne la cité. Mais la pandémie de Covid leur a donné un nouvel élan. La municipalité a ainsi ouvert depuis mai 4 voies cyclables temporaires sur de grandes artères. Autre projet phare pour l'été, en août, une partie du Gürtel, grand boulevard circulaire d'une importance majeure, sera temporairement fermée à la circulation pour y installer une zone de détente pour les habitants avec une piscine. De là à voir un changement de paradigme anti-automobile dans la capitale autrichienne, ce serait sans doute exagéré, d'autant que le maire social-démocrate Michael Ludwig freine au nom de la recherche du consensus. Un vrai coup d'envoi pour la campagne des municipales. On verra ce qu'il en restera une fois l'élection passée en octobre.
On retrouve notre consoeur de courrier international, Virginie Lepetit, rédactrice en chef adjointe, pour parler de la une du magazine. Bonjour Virginie.
Bonjour Juliette.
L'hebdomadaire consacre cette semaine sa une au numérique tout puissant ou comment, via le télétravail, la télémédecine, l'enseignement à distance, Internet a envahi notre quotidien.
Oui, le dossier de la semaine concerne le tout numérique fourni par les géants de la Silicon Valley et qu'on a largement expérimenté pendant la pandémie. Alors on a choisi de traduire en exclusivité en français un long article de l'essayiste canadienne Naomi Klein. Elle met en garde contre ce New Deal numérique qui donne les pleins pouvoirs aux GAFAM. À la place, nous devons repenser Internet comme un service public au service des citoyens, c'est ce qu'elle argumente.
Il n'y a pas que l'aspect le plus sombre du numérique dans ce dossier, Virginie. Vous parlez par exemple de l'île sicilienne de Favignana, où la mise en place de l'enseignement à distance a permis de sauver l'école locale.
C'était il y a 15 ans. À ce moment-là, les écoles dépeuplées de l'île se sont engagées dans un partenariat avec plusieurs classes de Toscane, non seulement pour organiser des cours en visioconférence, mais aussi pour travailler sur des tableaux interactifs partagés. Les élèves pouvaient résoudre une équation ensemble, en temps réel, comme s'ils étaient dans une seule et même classe, alors que des milliers de kilomètres les séparaient. C'était une expérience totalement novatrice pour l'époque, raconte Linda Guarini, l'institutrice. Depuis, l'expérience se poursuit. Année après année, l'école est même devenue le cœur battant de la vie culturelle de l'île. C'est ce que raconte cet article du journal milanais Linkesta.
Vous consacrez également, Virginie, dans ce numéro, une double page à Vladimir Poutine, le président russe, qui pourrait descendre de son piédestal alors que le pays vote en ce moment par référendum.
Ce référendum doit valider un projet de réforme constitutionnelle autorisant une possible réélection de Vladimir Poutine après 2024, et cela prend la forme d'un plébiscite pour le président russe. Or, Poutine a été désacralisé pendant la crise du coronavirus, c'est ce qu'avance dans Nevasimaya Gazeta le publiciste russe Alexandre Tsipko.
Vous dites désacralisé, pourquoi Virginie?
Parce que pour l'auteur, c'est la pandémie qui a joué un rôle fondamental. Habituellement, un malheur incarné, une menace militaire extérieure par exemple, tend à resserrer les liens entre le pouvoir et le peuple. Un malheur tel que le coronavirus, au contraire, creuse le fossé entre eux. Mais ce n'est pas tout, ça tient aussi à la personne de Vladimir Poutine, c'est ce qu'explique l'auteur. Son caractère secret, impénétrable, sa capacité à superviser les événements avec calme, assurance, depuis les hauteurs de son pouvoir. Mais désormais, c'est fini. Comme tous les autres dirigeants, Vladimir Poutine montre son impuissance face à un virus.
Enfin, sur votre site, vous reprenez une enquête d'El País sur les narcotrafiquants de la Costa del Sol en Espagne. Et leurs affaires semblent particulièrement bien marcher.
Oui, ce reportage au cœur du système montre comment les trafiquants de haschich du sud du pays importent la drogue depuis les côtes marocaines. Et surtout, comment ils blanchissent leur argent sale en infiltrant totalement l'économie locale. Des chiffres d'affaires qui se comptent en centaines de millions d'euros, des bateaux chargés de centaines de kilos de drogue. On est bien loin de la carte postale de l'Andalousie.
Merci Virginie Le Petit. Des sujets à lire ainsi que bien d'autres dans l'hebdomadaire et sur le site internet de Courrier International. À bientôt. Cap sur l'Angleterre alors que l'avenir agricole du pays paraît bien incertain. L'épidémie de coronavirus a ébranlé le secteur et avec le Brexit, le remplacement de la politique agricole commune de l'Union européenne reste encore à définir plus précisément. Londres doit négocier de nouveaux accords de libre-échange. Face à ces incertitudes, un récent sondage souligne qu'une très large majorité des consommateurs britanniques se disent inquiets de voir baisser la qualité des produits alimentaires qu'ils mettent sur leur table. Alors de jeunes agriculteurs ont décidé de parier sur la qualité et la traçabilité. C'est un reportage dans le Somerset de Marie Billon, réalisé avec le soutien de la Direction générale Agriculture et Développement Rural de la Commission européenne.
Tous les matins, Anna commence sa journée en allant s'occuper de ses canards. Ils ne sont pas près d'une mare, ils ont une petite maison en bois et plusieurs bassines d'eau posées sur l'herbe. C'est fait exprès, tout doit être transportable facilement.
Je viens d'acheter 24 cannes de ponte, des kakikambelles. Tous les matins, je ramasse leurs œufs, je les nourris, je change leur eau. Ils vivent ici dans le champ, ce qui leur permet de chercher leur propre nourriture aussi, des insectes.
And that's them over there.
So je crois que j'en ai réveillé. Certains jours, je déplace leur maison sur une nouvelle parcelle du terrain. Je bouge aussi la barrière électrique qui délimite leur bout de terre. Le fait de les déplacer dans le champ comme ça, c'est bon pour les canards puisqu'ils ont un nouveau pâturage pour chercher des insectes. Et puis ça leur permet de laisser leurs excréments un peu partout. Tout ça contribue à fertiliser le sol. Et cet été, je bougerai les vaches pour les mettre dans ce champ-là.
Voilà qui illustre à petite échelle le projet d'Anna. Car Anna est une jeune éleveuse, elle a 31 ans. Elle a commencé à louer son terrain, la ferme de Holt Farm, en mai dernier. Elle a grandi dans une ferme et travaillé pour des exploitants du coin jusqu'à maintenant, mais elle a décidé qu'il était temps de se lancer.
Je veux que la terre et l'écosystème se portent mieux grâce à la manière dont je travaille. Je crois qu'il est possible de produire des aliments de bonne qualité pour les humains d'une manière qui soit bénéfique à la faune et la flore, le sol, l'air et l'eau.
Pour ça, Anna utilise un mélange de vieilles méthodes éprouvées, comme la rotation des cultures pour laisser le sol se régénérer, mais elle s'aide aussi d'outils modernes pour maximiser son efficacité. Anna attrape la barrière électrique posée dans son tracteur. Ça ressemble à un drôle d'arc ou à plusieurs bâtons de marche accrochés à une grande bobine de fil.
Nous nous dirigeons vers le champ où se trouvent les vaches, toutes avec leurs veaux, leurs génisses et leurs bouvillons, des jeunes bœufs quoi. Je vais les déplacer sur un autre bout de terrain avec de l'herbe fraîche. Je fais ça tous les jours ou tous les deux jours. C'est mon système de pâture régénératif.
Regenerative grazing system.
Arrivée dans le champ, Anna se dirige d'abord vers un petit boîtier recouvert d'un panneau solaire. C'est le contrôle de l'électrification de ses barrières. Anna a 26 vaches, des Shetland, qu'elle accouple avec des bœufs Angus et Hereford, des espèces costauds, ce qui permet à Anna de ne pas trop dépenser en soins vétérinaires. Il faut que ces méthodes soient pérennes pour son business aussi. Anna plante les poteaux et les relie avec une ficelle électrifiée. Pour décider où les placer, elle a d'abord sondé le sol avec son herbomètre, un long bâton avec un disque rond qu'elle pose à plat.
Ça mesure l'herbe et ça me dit finalement combien il y a de nourriture pour les vaches. Ça me permet de calculer combien de temps je veux qu'elles restent sur chaque portion. Mais quand je les déplace, comme je vais le faire dans une minute, je m'assure aussi qu'il reste encore beaucoup d'herbe qui n'a pas été broutée.
Ainsi, quand l'herbe repousse, elle est plus costaud et séquestre encore mieux le carbone. Il est temps maintenant de déplacer les vaches. Elles ne vont pas bien loin, elles restent dans le même pâturage, juste une autre portion. Pendant que les ruminantes s'affairent à brouter l'herbe fraîche, Anna sort un cerceau et le jette par terre. Et puis elle sort son téléphone portable et allume l'application Soil Mentor.
J'y enregistre ce que je vois dans ce cerceau. La première chose demandée, c'est le pourcentage de terre sans herbe dessus, 0%. Je note combien il y a de types de plantes présentes, j'en vois deux. Et s'il y a des mauvaises herbes, c'est zéro.
Anna va continuer à faire ses mesures, une vingtaine dans ce champ aujourd'hui, et elle le refera deux fois chaque saison. Les données rentrées dans l'application sont ensuite automatiquement analysées. C'est comme ça qu'Anna garde un œil sur l'évolution de l'état de son sol, ce qui lui permet d'en vérifier la qualité environnementale, mais aussi la qualité nutritive pour le bétail, autant de données indispensables pour permettre à son affaire de prospérer.
Et pour prolonger cette visite à la ferme, rendez-vous sur notre site RFI.fr pour voir le diaporama photo de Julia Cérone. Notre rendez-vous avec Vincent Théval et la musique. Bonjour Vincent, aujourd'hui on écoute Lisa van der A.
Peut-être vous souvenez-vous de la Belge Lisa van der A, qu'on a croisée à deux reprises dans Accent d'Europe depuis la sortie de son premier album en 2012, où cette violoniste de formation mélangeait pop et expérimentation brutiste. En 2015, Lisa van der A avait publié une œuvre aux proportions pharaoniques, un triple album inspiré d'une cérémonie de la mythologie égyptienne, la pesée du cœur. Aujourd'hui, la musicienne revient avec Easy Alice, un moyen-métrage doublé d'un album concept qui lorgne cette fois du côté du funk et du hip-hop, un disque surprenant, complexe et roboratif où Lisa van der A marche dans les pas de Prince et s'invente avec Alice un alter ego cynique pour raconter des histoires tordues, des dialogues à deux voix, une sorte de guide de survie en milieu hostile, bref, un disque ambitieux et qui rend un peu fou.
Lisa van der A, Maximum Joy dans Accent d'Europe. À la réalisation, Laurie Plisson. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et puis vous pouvez bien sûr vous abonner via votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt. Don't need to work that hard, just keep your eyes on me. Eyes on the prize, baby.